Qui d'entre nous, enfants, n'a rêvé d'en découdre sur le pré au clair, comme l'on disait au XVIIe siècle? Qui d'entre nous, adultes, n'a envié l'adresse des fabuleux personnages d'Alexandre Dumas, toujours l'épée au poing pour la défense du faible et de l'opprimé?
Après Monte Cristo, puis les Trois Mousquetaires, nous revoici sur les pas d'Alexandre Dumas, et plus exactement de l'épopée romanesque qu'il a instiguée sur tous les écrans, le genre du cap et l'épée. Bonjour et bienvenue dans cette 21e visite de la saison 6 du Panthéon Décousu sur Radio Alpa 107.3 au Mans et radioalpa.com partout ailleurs. Cette semaine, c'est donc combat ébouriffant, meubles qui volent, romance et embuscade à 4 contre 1. Et donc, outre Gérard Philippe, Jean Marais, Belmondo, Sophie Marceau ou Daniel Auteuil, le personnage principal se tient dans la main comme le schmilibilibic de Coluche, mais ce n'est pas un œuf car on ne joue pas avec la nourriture. Retour dans la salle d'entraînement du club de Limoges, ici filmé pour FR3 Limousin en 77, excellent millésime par ailleurs.
L'épée, le fleuret, le sabre, armes nobles qui ont gardé en France depuis des siècles un attrait certain. L'escrime, un sport agréable que professe à Limoges le maître d'armes Jean-Pierre Romeru.
Oui, l'escrime par connaissance surtout, par les films de cap et d'épée que les enfants voient. À la télévision, au cinéma, les enfants sont sensibilisés par ce fait et viennent souvent à l'escrime.
Bon, vous qui vous regardez, vous êtes prêts?
Prêts.
Allez. Il y a une attaque ici, qu'est-ce qu'elle fait?
Elle touche.
Que développe précisément l'escrime?
Alors, il y a plusieurs qualités. Il y a des qualités d'abord physiques, ne serait-ce que sensorielles ou tactiques. Sensorielles, il faut voir très vite. Ensuite, tactile, quand on vous menace, il faut pouvoir savoir à quel moment il faut se défendre, quel moment il faut attaquer. Ensuite, il y a des qualités, bien sûr, nerveuses. Il y a une très grande concentration nerveuse lors des combats, mais pour des élèves déjà chevronnés. Il faut des qualités musculaires, à savoir souplesse, détente, rapidité, endurance, résistance, enfin, que l'on développe surtout à l'entraînement.
Un peu d'histoire sur l'instrument des mousquetaires avec ce documentaire diffusé début avril sur RMC Story, pour une fois plutôt bien sourcé.
Mais contrairement au duel de Dumas, qui fait le spectacle en les étirant de rebondissements en coups de théâtre, dans la réalité, les duels sont beaucoup plus rapides. Ils durent moins d'une minute, car le seul but est de vaincre l'adversaire au plus vite.
Quand le mousquetaire doit défendre son honneur dans des circonstances type un duel, etc., on va chercher une épée spécifique, toujours une forte garde, mais surtout une lame très très longue qui peut dépasser 1m30 voire 1m40. Alors là, il n'y a plus de tranchant. C'est véritablement un poinçon. Il faut évidemment que la main soit protégée parce que tous les coups arrivent là contre la main. Pour avoir un avantage sur l'adversaire, on va essayer d'avoir la longe la plus grande possible. Et donc une épée très très longue. Ce sont des armes légères. Hein. C'est une arme qui fait 1,5 kg à peu près, qui vous donne une allonge redoutable en fait. C'est une escrime extrêmement rapide, extrêmement nerveuse. C'est-à-dire qu'il faut essayer de loger ce demi-centimètre carré d'acier dans le ventre de votre adversaire.
Mais le duel est un fléau.
Chaque année, il y avait plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de jeunes nobles qui mouraient dans les duels. Donc il fallait absolument arrêter cette hémorragie.
Rien que pour l'année 1627, on dénombre 4000 nobles tués en duel. C'est un fléau qui fragilise le commandement militaire des forces françaises. En 1627, par un édit du cardinal de Richelieu, premier ministre du roi Louis XIII, les duels sont donc interdits.
Deux individus qui se battaient en duel, ils se faisaient la justice eux-mêmes. Et donc, ils ne se soumettaient pas à la justice du roi et même aussi de Dieu.
Et si l'on était pris en flagrant délit de duel, on n'encourait rien de moins que la décapitation.
Le duel permet à un jeune gentilhomme de se faire remarquer. Même si c'est interdit, c'est un moyen d'avoir de l'honneur, d'avoir de la réputation, de se rendre célèbre. C'est à partir du moment où vous avez une réputation qu'on va vous donner des commandements. Donc c'est ce paradoxe du duel.
Un fléau à double tranchant, et une belle hypocrisie à la française, déjà.
Moi qui me flatte d'être informé de tout, j'ignorais que D'Artagnan eut une fille.
Nous aussi, mais l'occasion était trop belle pour Philippe Noiret et Bertrand Tavernier, complices depuis plus de 20 ans, de s'offrir enfin un film de cap et d'épée.
Ça faisait partie de mes rêves et il était temps que je le réalise parce qu'en jugé par l'état dans lequel j'étais après le film, il était temps, quoi, voilà.
Double interview, fin août 94, signé Pascal Deschamps pour le 19-20 de France 3.
Un film de cap et d'épée donc, avec ses chevauchées, ses méchants, son complot, ses bottes secrètes, et quatre messieurs bien tranquilles, mousquetaires en retraite, contraints de reprendre du service par la faute d'une jeune fille qui ne demande qu'à marcher sur les dignes traces de son père, héros fatigué mais superbe.
Ma petite fille, tu choisis mal ton heure.
Mais je ne choisis rien du tout.
Tiens, regarde. C'est pour ce document que la mère supérieure est morte.
Montre. Ce bout de papier, là, t'en as parlé à quelqu'un?
Je sais tenir ma langue. C'est un secret d'État, je le sais, je le sens.
Ouais, on dirait une liste de blanchisserie, tu sais. Avec du sang, mais une liste de blanchisserie.
Non, mais c'est ça. Mère Thérèse assassinée, un nègre en sang, des morts partout pour une liste de blanchisserie. Mais le complot saute aux yeux. Les cavaliers noirs, la femme en rouge.
J'aurais pas aussi une licorne bleue et un petit nain vert?
Déjà, le complotisme. Bon, plus sérieux, filmer des combats à l'épée ne s'improvise pas. Ça s'apprend auprès de professionnels compétents. Pour les fêtes de 67, l'ORTF offrait un documentaire sur ce nouveau métier, né de cette nouvelle mode. Des extraits ponctueront notre visite.
Elle a donné naissance à une fonction nouvelle, celle de directeur du combat d'escrime, qui reconstitue ses duels, entraîne les acteurs et dirige les cascadeurs. De cette profession nouvelle, trois noms: Gardère, Carniès, Biret. Raoul Biret, quelle différence y a-t-il entre un duel pour la télévision et ceux qui opposaient au XVe siècle les mousquetaires du roi?
Sinon que la compagnie des mousquetaires fut créée en 1623, donc au XVIIe et non au XVe siècle. Bref.
L'énorme différence entre l'escrime pratiquée actuellement pour le spectacle et l'escrime du XIVe ou du XVIIe siècle, il est un fait certain que l'escrime du spectacle a pris une importance qui a été donnée par les Américains. Par ces fameux films américains des années 20-40, par Douglas Fairbanks, par Zorro, par Errol Flynn, Robin des Bois, tout le monde a un souvenir impérissable. Il faut dire que les Américains ont mis un point très très important dans le cinéma. Ils ont mis en valeur les combats, ils ont mis en valeur la bataille.
Alors qu'Hollywood était resté sur ses mythes historiques, en France aussi, on a remonté loin, très loin. Non, pas jusqu'à Astérix, mais jusqu'aux croisades, soit fin 12e, 13e, il me semble. En 68, Thibaut des Croisades de l'ORTF a affaire au Mahométan. Ben Yacoub est alors joué par un jeune premier du nom de Pierre Harditi. Difficile de manier la lourde épée de chevalier à une seule main, à deux, c'est mieux. Et musique de Georges Delerue.
C'était des épées très larges. Il n'y avait pas de pointe, des stocks et de taille, comme on dit, on était juste à la taille. Comme des coups de hache à deux mains. Ça aussi, c'est une autre formation. Il a été obligé de recommencer et de remettre tout à zéro et tout en question pour refaire justement cette escrime à deux mains qui, elle, est une escrime sans subtilité.
J'aurais renversé une table entre eux et moi et cueilli un tabouret. C'est parfois très utile, un tabouret.
En 66, l'ORTF, toujours, présente une dramatique pièce de théâtre filmée, vous savez, La Tour de Nesle d'Alexandre Dumas, justement, sur Marguerite de Bourgogne, reine adultère. Pour l'occasion, les scénaristes ajoutent au début une grande scène de combat à l'épée dans une taverne. Scène qui n'existe pas dans cette pièce, la plus représentée au 19e siècle.
Nous veillons d'autre part à introduire dans le découpage des combats des situations humoristiques qui tempèrent, si vous voulez, la signification des gestes brutaux.
Il faut pas faire de la parodie.
Bertrand Tavernier, réalisateur de La Fille de D'Artagnan avec Sophie Marceau.
Il faut savoir s'amuser avec, mais comme Dumas s'amusait avec ses personnages. Je veux dire, jusque dans des romans dramatiques comme Le Vicomte de Bragelonne, il y a plein de passages qui sont d'une drôlerie irrésistible.
Monsieur, il me semble que vous avez été impoli avec ma fille.
Pour tourner ce film, Philippe Noiret, habile cavalier, a dû pour la première fois tâter de l'épée.
Est-ce qu'on peut parler d'exploit physique?
Oui! Non seulement on peut, mais on doit parler d'exploit physique.
Donc D'Artagnan est prêt pour la fille de D'Artagnan, le retour.
Ou la petite fille de D'Artagnan, enfin, tout ce que vous voulez, oui, je suis prêt, oui. On réduira peut-être un peu les duels, mais on trouvera une façon.
Et l'irremplaçable Noiret.
Mais y a-t-il une grande différence entre un duel préparé pour le théâtre, pour le cinéma ou pour la télévision?
Il y a à chaque fois un problème différent et à chaque fois une technique différente. Je commence par le théâtre, par exemple. Au théâtre, il est un fait certain que quand on règle un combat, on n'a pas de gros plans. Donc, les mouvements spectaculaires doivent être scéniques, c'est-à-dire des déplacements. Bon, ça, c'est le gros plan au théâtre. Ensuite, une répétition extrêmement pénible, parce qu'il n'y a pas de moyen de s'arrêter en cours de scène. Il faut que tout le duel s'enchaîne. Au cinéma, nous avons presque toutes les libertés au point de vue objectif et au point de vue Profondeur de champ, point de vue cadrage aussi. On peut très bien soigner une bagarre en bordure de cadre. Et nous pouvons, à la rigueur, faire des gros plans. Quant à la télévision, ça c'est un petit écran. Et en plus, il est lumineux. On est attiré par ce centre lumineux. Et on est attiré par le centre même de l'écran. Alors si on met une action importante en bordure de cadre, vous êtes sûr, elle est mangée. Donc il faut faire attention à être toujours bien axé centre. Mais aussi, et ça c'est très important, on ne peut pas être trop près à la télévision dans un combat. Car si on est trop près, on n'a plus du tout le sens de l'action. Et on ne voit pas ce qui se passe. Si on est trop loin, on n'est pas en présence, bon, pas de communication. Alors il faut trouver le juste milieu. Les personnages bien cadrés avec un tout petit peu d'air en bas et un petit peu d'air au-dessus. Et ça, ça donne de la présence.
La musique pour La fille de D'Artagnan est signée Philippe Sard, tout comme celle du Bossu, partie tournée au Mans en 97.
Il faut que les mouvements d'escrime soient des mouvements instinctifs de comédie. Il faut que le comédien soit libéré totalement de cette chorégraphie. C'est comme un texte, si vous voulez, qu'il apprend. Le texte doit ressortir, doit jaillir spontanément. Bon, eh bien, le mouvement d'escrime, c'est la même chose. Ça doit venir naturellement. À ce moment-là, il a toute la liberté de jeu. Et c'est lui qui va apporter encore les 40% qui manquent au combat pour lui donner de la vie. Et c'est très important, ça.
Pour moi, jouer, c'est se transformer, mais...
Daniel Auteuil est le bossu lagardère du film de Philippe de Broca.
Avec peu de choses, hein, c'est surtout faire appel chez le spectateur à son imaginaire. Encore une fois, pour ce bossu, j'ai rien d'autre qu'un faunet, une perruque et une bosse. Et le reste, c'est moi qui l'apporte. Et j'aime bien solliciter l'imaginaire du spectateur comme ça.
Flatteur.
Oh, j'ai recourbé. On prend le pli, n'est-ce pas?
De l'esprit, voyez-vous ça?
Oh, nous autres cabossés avons deux choses bien pendues, la langue
et... Et quoi encore?
Une certaine affaire qui plaît bien aux dames, monseigneur.
Coquin, tu m'amuses, hein? C'est lui que je veux.
Mon vrai plaisir, moi, c'est les scènes physiques, ça, les combats, les cavalcades... C'est surtout aller interpréter le héros de son enfance, que ça fait bizarre.
Si tu ne viens pas à la Gardère ira à toi!
Ton imposture est démasquée, bossu! Remets ton âme à Dieu!
Pas avant d'avoir remis la vôtre au diable!
Remontez, protégez-vous. Rends-toi, bossu, tu es perdu!
Le bossu est mort! Vive la Gardère! Et toi, prince félon, infâme meurtrier, puisque tu n'es pas venu à la Gardère, c'est la Gardère qui vient à toi! Allez, attaquez!
Mon cher cousin, mon meilleur ami, Philippe de Nevers n'est plus. Il a succombé sous les coups de misérables bandits commandés par un aventurier du nom de la Gardère.
Toutes les époques, les hommes ont dû fuir devant des accusations calomnieuses pour tenir leur serment et éviter le pire. Heureusement, à toutes les époques, les hommes ont surgi pour venger les victimes, confondre les corrupteurs, châtier les coupables et les assassins. De la race des D'Artagnan, des Don Quichotte et des Robin des Bois, Lagardère est toujours présent pour combattre l'injustice et défendre les opprimés. Quelles que soient les menaces et les perfidies, l'épée de Lagardère défendra toujours la bonne cause.
Mais quand vous assistez à des combats de ce genre qui se déroulent en continuité entre 5 et 6 minutes, vous ne devez pas perdre de vue qu'il s'agit d'un ensemble de mouvements qui ont été réglés avec autant de minutie que la chorégraphie d'un ballet.
Un combat d'escrime doit se répéter avec une minutie au centième de seconde. Je le dis bien, parce que vraiment, les mouvements sont dangereux quelquefois et il faut que ça soit répété.
Le directeur du combat se doit aussi de trouver avec le réalisateur le cadre idéal qui va mettre en valeur le combat lui-même au moment du tournage. Il se pose ainsi des problèmes difficiles de profondeur de champ et d'angle de visée de la caméra pour être à même de suivre le héros principal du combat dans tous ses mouvements essentiels.
Et mon combat, je le rythme comme une musique. Je rythme, je fais attaquer, mettons, l'adversaire quatre fois, en quatre lignes différentes. Un, deux, trois, quatre. Vous voyez, je fais pas un, deux, trois, quatre, boum, en garde, et ça manque de rythme. Je fais un, deux, trois, quatre. L'autre répond par un, deux.
Jean-Marais, vous avez refusé de vous faire doubler pour les scènes dangereuses, non seulement du bossu, mais également du capitaine que vous tournez actuellement.
L'intrépide équipe de la télé française de 1960 s'est aventurée pour l'occasion en forêt de Fontainebleau, où se tourne ici le capitaine avec Jean Marais, qui, l'année précédente, avait triomphé en bossu pour Jean Une Belle.
Est-ce que ceci correspond chez vous à un besoin profond, et est-ce que ce goût du risque, vous l'avez toujours eu ?
Oui, j'ai toujours eu le... Non, j'ai pas toujours eu le goût du risque. Étant enfant... J'étais très peureux et c'est justement pour ça qu'à l'heure actuelle j'ai le goût du risque parce que j'ai souffert de la peur et que j'ai voulu me corriger de la peur et que je me suis obligé étant enfant à faire toutes les choses qui pouvaient me faire peur et petit à petit j'en ai pris le goût et je continue.
Est-ce qu'il vous arrive tout de même de penser au danger en un mot, d'avoir encore peur maintenant ?
Non, et d'ailleurs par exemple dans des moments comme pendant la guerre, j'ai essayé de me prouver que je pouvais avoir peur et je me suis mis dans toutes les occasions qui pouvaient me faire peur. Je trouve le terme jouer pour un acteur parfait, c'est que étant enfant, je jouais dans la cour du collège à imiter les acteurs et je continue à jouer. Je m'amuse dans la vie, c'est peut-être à mon âge un défaut. Il y a des choses plus graves dans la vie, mais je ne suis pas fait sans doute pour les choses graves. Enfin, une personne assez bien pour ça.
Marais et Auteuil, c'est kiff-kiff. Du moins, c'est la même inspiration, quasi pour le même rôle, dans un genre différent et une bonne génération d'écart.
Je vous avais annoncé des duels, en voici.
Chef ?
Oui !
Voici mes lois. Pas de meurtre, on ne s'attaque qu'aux grands.
Évidemment !
À nous autres, donc, les carottes, les plumes, les dentelles, les bières et les pompons.
Évidemment !
Quoi ? S'acharne-t-il contre moi ?
Mais non, mon ami, c'est à moi qu'il en veut.
En ce moment, on roule vers le roi l'ambassade du Grand Turc. On y porte deux diamants. C'est vous qui les aurez.
Mais qui es-tu ?
Cartouche, avec un grand C. Ah. Plus belle d'abord.
Monsieur le sergent, hein ?
Ou alors ? Vous avez deux jours pour le retrouver, prenez trois hommes !
C'est comme s'il était là, monsieur le colonel. Enfin, vous pouvez compter sur moi.
Cartouche, premier triomphe de Philippe de Broca en 62, affiche un casting 5 étoiles. Belmondo, Claudia Cardinal et Odile Versois, sœur de Marina Vladi, mais également Rochefort, Prébois, Balutin et Noël Roquevert qui parle ici de Fanfan la Tulipe et donc de Gérard Philippe.
L'année dernière, les téléspectateurs ont été grattés. La télévision leur a montré Fanfan la Tulipe. Fanfan la Tulipe dans lequel, mon cher Roquevert, vous étiez l'adversaire de Gérard Philippe et notamment dans une scène extraordinaire, cette scène du duel sur un toit. Dans cette scène, cher Noël Roquevert, est-ce que réellement, avec Gérard Philippe, vous vous battiez sur un toit très haut, comme on l'a vu?
Mais exactement, exactement. Je sais bien qu'au cinéma, on a toujours des tendances à dire, bon, c'est truqué. Il faut que ce soit, en principe, truqué, tout au moins pour certaines choses.
Oui.
Car si, dès le début du film, on nous coupait un morceau ou qu'on nous casse un bras ou une jambe, ben on ne pourrait pas continuer.
Il n'y a plus de film.
Il y a donc tout de même des arrangements possibles. Ceci dit, c'est tout de même plein de risques. Et puisque vous me parlez justement de cette scène du toit, le toit n'avait pas été préparé à l'avance. On est allé en reconnaissance chercher un coin, une ferme, qui serait la ferme dont on désirait la découpe. Et puis, on a dit, ben voilà, c'est celle-là. Or, le toit n'avait pas été du tout préparé pour nous recevoir. Or, comme cette ferme était très haute, nous nous sommes battus à une hauteur d'environ 12 mètres, oui, c'est-à-dire la hauteur de 3 étages.
Sans aucune protection.
Ah, sans aucune protection. On m'avait dit, fais attention, Gérard Philippe est très fatigué, il est surmené, il a beaucoup tourné, c'est un garçon qu'il faut ménager. Mon Dieu, mais formidable. Ce garçon était inouï, il n'a jamais voulu se faire doubler. Il était d'un courage, je dirais même, presque téméraire, n'est-ce pas? Vraiment, c'était une lame d'acier. Et c'est lui qui aurait pu me ménager, vraiment. Alors, j'étais à bout de souffle.
Tu auras du mal à la passer, la botte de Nevers. Mon beau cousin m'en avait appris la parade.
Les bottes, notamment pour la botte de Nevers, est un moyen de toucher l'adversaire malgré sa défense. Pour la botte de Nevers, que Féval a inventée de toutes pièces, il touchait au front par une pointe. J'ai respecté à peu près cette botte de Nevers, mais j'ai ajouté, à la fin de ce mouvement, un coupé. Parce que le mouvement de la botte de Nevers, juste la pointe, le mouvement est arrêté. Il aurait fallu un autre mouvement pour retirer l'épée. Ce qui est, dans cette ligne-là, inesthétique. Alors, j'ai mis la pointe en avant et je termine par un coupé.
À moi, Lagardère! À moi! Assassin! Je n'ai pas vu ton visage, mais je te reconnaîtrai partout! Lagardère!
Lagardère! Ma fille! Aurore! Sauvez-la! Vengez-moi!
Viens la chercher derrière mon épée! Ta main emportera la trace! Si tu ne vas pas à Lagardère, ira à toi.
C'est Jean Piat qui, avant Les Rois Maudits, s'escrima dans ce fringant Lagardère, série télé de 67.
Il avait confiance en nous. Il nous a laissé approcher.
On a fait mine de rire.
Moi, je me suis planté devant lui, j'ai tiré mon épée et j'ai dit, Chevalier Henri de Lagardère, nous allons avoir l'honneur de vous tuer.
Alors, moi j'en ai fait autant, c'est la plaisanterie, toujours la plaisanterie.
Oh, Jacques Dufilho et Marco Perrin. La surprise du jour est locale. Le Vieux Mans, terre de tournage, moteur. En 90, Les Dames Galantes de Jean-Charles Takela est en partie tournée rue de Vaux avec un casting savoureux. FR3, Le Mans, soir.
Presque un an après le tournage de Cyrano, la rue de Vaux retrouve ses badauds cinéphiles et les réalisateurs qu'elle connaît bien.
On ne trouve plus des rues comme ça à Paris, ça n'existe pas. Je veux dire, on est quand même plus tranquille pour tourner. Je suis sûr qu'on tournera beaucoup de films grâce dans le Vieux Mans. Hein. Les Dames Galantes, c'est un hommage aux femmes et c'est joué par Richard Bohringer avec Isabelle Rossellini, Marianne Basselet, Robin Renucci, Marie-Christine Barrault.
Ambiance, à 16h, flashback sur le 16e siècle, répétition de la scène de l'embuscade. Qu'est-ce que vous pensez du décor naturel du Vieux Mans ?
Ah, ça c'est tellement beau. Ça, c'est... Je suis arrivée il y a 2 heures. Je me suis promenée. Je suis venue justement 2 heures avant le tournage pour me promener. Je suis ravie.
Vous êtes imprégnée de ces vieilles rues ?
Oui, absolument. Oui.
C'est beau le Mans la nuit ?
Le Mans, je connais. J'ai joué l'Ouest Levray il y a, je sais pas, quelques années ici au théâtre. Et puis, il y a encore plus longtemps, j'avais fait un des derniers concerts de Vince Taylor comme musicien ici au Mans. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle, d'ailleurs.
Vous le décririez comment, ce héros ?
C'est un bonhomme assez énigmatique, mais très, très attaché à la féminité, quoi. Qu'elle soit spirituelle ou charnelle, d'ailleurs, il aime les deux. Il aime l'intelligence et le plaisir. Il aime pas les femmes pour lui. Il n'est pas comme Casanova. Il les aime pour elles, quoi.
Et Depardieu est moins noble et stylé que le dit Casanova. Nous voici presque rendus à la fin de cette visite du Panthéon décousu. Diffusion le samedi et lundi midi et le mardi à 17h30 sur Radio Alpa, sur cette page roman, et sur radioalpa.com où vous trouverez tous les podcasts presque à jour. Mais nous ne quittons pas sans musique et ce générique cultissime signé Jacques Loussier. Mais avant, la brillante conclusion Made in ORTF de 67 et à la toute fin, ne ratez pas les débuts de Zabou Breitman. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa et d'ici là, n'avancez pas toujours à fleur et moucheté.
Leurs bagarres, leurs duels ne doivent pas être une fin en soi. Ils sont l'expression d'une justice d'un autre monde, d'un autre âge, où les bons punissent les méchants à la pointe de leurs épées. En réglant ces duels pour que le juste triomphe, le directeur de combat apporte ainsi sa participation à cette œuvre commune, où réalisateurs, comédiens, cascadeurs et figurants s'efforcent de reconstituer pour ce qui reste de nos souvenirs d'enfance le monde merveilleux où belles princesses et preux chevaliers servaient à la fois la justice et l'amour.
Merci Isabelle.
Qu'est-ce que tu fais là, toi ?
Eh ben alors, c'est déjà fini ?
Non, mon moineau, ça recommence.
Et toi, comment tu t'appelles ?
Bah, Isabelle, tiens.
Tu t'appelles Isabelle ?
Ben oui.
Au revoir.
Au revoir.